Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la cité.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'échanger avec Alain Coulon afin de présenter son livre « Le marégraphe de Marseille, de la détermination de l'origine des altitudes au suivi des changements climatiques. 130 ans d'observation du niveau de la mer ». Ce livre a été édité par les Presses des Ponts. Bonjour Alain Coulon.
Bonjour.
Alain Coulon, vous êtes ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'État à l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Alors, j'étais au moment où j'ai écrit le livre, voilà. Aujourd'hui, je suis à la retraite.
Ok. Donc, vous avez dirigé le département qui entretient notamment le réseau de nivellement général de la France, NGF, et contrôle le bon fonctionnement des instruments d'observation du niveau de la mer à Marseille, en étroite collaboration avec le service hydrographique et océanographique de la marine. Alors tout d'abord, pour qu'on arrive un peu à comprendre, indiquez-nous ce que sont l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, et le service hydrographique et océanographique de la marine.
Donc
IGN et CHUM.
Donc l'IGN, c'est l'ancien Institut géographique national qui historiquement fait les cartes du territoire, hein, les cartes à toutes les échelles, y compris des cartes au 25 millième qui servent à faire de la randonnée, voilà, où il y a tous les petits détails du territoire, enfin qui servent au grand public à faire de la randonnée, mais qui peuvent servir à autre chose, des cartes papier et des cartes numériques, bien sûr. Et l'IGN, il y a maintenant, 10-15 ans, a intégré l'inventaire forestier national et donc est devenu Institut national de l'information géographique et forestière. Voilà.
D'accord.
Donc on a, sans changer le cycle IGN. Mmh. Et autrement, le CHOM, le service hydrographique et océanographique national, oui, c'est ça. Non, c'est service hydrographique
de la marine.
Voilà, de la marine. Donc, eux, c'est des marins. L'IGN, c'est civil. Le CHOM était militaire. Il est de moins en moins militaire, mais en tout cas, s'occupe de tout ce qui est notamment sécurité de la navigation et donc les annuaires de marée, les cartes marines, etc.
Voilà. D'accord. Alors, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire?
Alors, c'est un peu une longue histoire. Moi, j'ai été géomètre, j'ai une formation de géomètre au départ, et au bout de quelques années de fonction, j'ai passé un concours interne. J'ai réussi ce concours et puis du coup j'ai pris en charge un département de l'IGN qui s'occupait justement du nivellement général de la France. Alors on aura peut-être l'occasion de reparler du nivellement général. Quand mon prédécesseur m'a laissé son bureau, au bas d'une armoire, il y avait tout un dossier. Il m'a dit ça, c'est l'histoire du marégraphe de Marseille. Voilà. Donc bon, sur le coup, j'avais jeté un œil, mais sans plus y attirer d'attention. Et juste avant de partir, il m'a dit « je t'emmène au marégraphe pour te faire voir physiquement les lieux voilà. ». Donc je suis venu à Marseille la première fois. Je connaissais l'existence du marégraphe, bien sûr, mais je n'étais jamais venu. Et donc je suis allé la première fois à Marseille en 2004, je crois. Et puis, ben, j'ai dû tomber un petit peu amoureux du lieu, hein. Il était pourtant pas du tout dans l'état où il est actuellement. Il y avait des fils partout, il y avait des fenêtres qui étaient murées, enfin, pour dire que c'était dans un état assez lamentable à l'époque. Et pourtant, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce lieu. Et donc, du coup, ben, en revenant à Paris, j'ai réouvert le fameux dossier. J'ai commencé à lire des documents qui dataient du 19e siècle. Et puis, je me suis dit, mais il y a un trésor là, il n'y a que toi qui sais qu'il est là. Et c'est quand même dommage. Donc j'ai commencé à numériser tout ça, à le saisir de façon numérique, voilà, sur un ordinateur. Et puis à compléter les lettres, parce qu'en fait, dans mon bureau, j'avais les lettres envoyées par les ingénieurs marseillais aux gens de l'IGN à Paris, et aux archives départementales à Marseille, il y avait les lettres envoyées de Paris vers Marseille.
Il y avait les réponses.
Voilà, il y avait les deux moitiés finalement, ou quasiment toute l'histoire du marégraphe, dans seulement deux endroits. Bon.
Génial, ça.
Donc, bon, après, je suis quand même allé dans des endroits un peu plus inattendus. J'ai trouvé des archives à Montbrison, dans la Loire. Il y avait des parce qu'il y avait un fabricant de marégraphe qui était implanté pas loin. Voilà. J'ai correspondu avec les Espagnols, avec les Allemands. On expliquera peut-être après pourquoi. Enfin, voilà. Mais quand même, je dirais 90% des archives ou 95% des archives qui étaient dans deux lieux. Donc j'ai numérisé tout ça, des dizaines de milliers de pages. Et à partir de ça, et ben soit je faisais une thèse comme un de mes petits camarades avait fait une thèse sur le marégraphe de Brest à peu près dans le même temps. Soit je faisais un livre. J'ai choisi la liberté, on va dire. Et du coup, voilà, on est arrivé à un livre. Que j'ai fait le plus exhaustif possible et qui du coup est assez lourd, assez complet. Voilà.
Ah oui, c'est 638 pages. Vous êtes également président de l'association des amis du Marigraphe de Marseille. Quelles sont les activités de cette association?
Alors ça, c'est la suite de l'histoire, on va dire. Le livre, il est sorti en 2014. À partir de 2013, en tant qu'ingénieur IGN, organiser des visites du marégraphe quand Marseille a été capitale européenne de la culture en 2013. L'IGN a voulu ouvrir le lieu pour la première fois plus largement au public. Donc entre 2013 et 2019, j'ai accueilli 10 000 personnes quand même au marégraphe. Hein, c'est
Énorme.
par petits groupes, mais voilà, on a accueilli quand même du monde. Bon, après, il y a eu la période Covid. Je voulais prendre ma retraite en 2021 et donc on a créé l'association 6 mois avant. Aujourd'hui, on organise à la fois des visites réelles au Marégraphe dans le cadre des Journées du Patrimoine pour le moment. On a fait en sorte qu'on puisse diffuser sur notre site internet deux visites virtuelles. Qui permettent à ceux qui ne sont pas encore rentrés au Marégraphe de le faire depuis chez eux sur leur ordinateur ou sur leur téléphone. On fait des conférences, on fait pas mal de stands informatifs dans le cadre je sais pas, du festival Vivacité, des opérations style la voie est libre sur la corniche quand elle est rendue piétonne, des choses comme ça.
C'est le dimanche qui vient de passer.
Voilà, tout est fait pour faire connaître le marégraphe, ses intérêts patrimoniaux, historiques, scientifiques, et puis aujourd'hui liés au changement climatique.
Alors vous disiez que l'IGN vous avait demandé d'ouvrir le marégraphe pendant les journées européennes, dans les journées culturelles européennes, ce qui veut dire que le marégraphe est propriété de l'IGN.
Alors, le marégraphe est propriété de l'État. Et il y a une convention entre l'IGN et l'État. C'est l'IGN qui est gestionnaire,
D'accord.
qui donc assure à la responsabilité de toutes les mesures qui sont faites au marégraphe. On continue à faire des mesures, bien sûr. Enfin, je dis on parce que voilà, j'ai du fois du mal à me dire.
Un peu impliqué.
Voilà. Et puis, je suis très impliqué quand même. Donc, l'IGN fait à la responsabilité des mesures, à la responsabilité de l'entretien des bâtiments et des appareils, ce qui quand même représente quelque chose d'important en milieu marin.
Ce qui avait été oublié pendant de nombreuses années.
Ce qui effectivement, dans les années 90-2000, oui, avait été, c'était une période un peu creuse. L'intérêt pour la marégraphie a toujours subi des mouvements. Il y a eu marée haute et marée basse. Marée haute, il y avait de l'intérêt pour le marégraphe, et puis il y a eu effectivement des périodes de marée basse. Donc les années 90-2000, on était plutôt en marée basse. Oui.
Et à qui s'adresse ce livre?
Alors, j'ai essayé à la fois qu'il s'adresse aux Marseillais, parce que j'ai intégré l'histoire du marégraphe dans l'histoire de Marseille. J'ai essayé aussi de le faire par petits chapitres. Moi, je sais que quand je prends un gros bouquin sur les phares ou des choses comme ça, je n'attaque pas la lecture forcément par le début. Et je feuillette, je vais voir une photo, et puis je lis du coup les deux, trois pages qui sont autour de la photo. Et je l'ai conçu comme ça. Il est par petits chapitres de deux, trois pages qui sont quasiment indépendants les uns des autres. Et donc, on peut picorer comme ça par petits morceaux. Bon, après si on veut voilà, un peu comprendre le déroulé des choses, c'est quand même bien de le lire depuis le début. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, ce que j'aurais pas pu faire dans le cadre d'une thèse, c'est que les 160 dernières pages, c'est le portrait de tous les gens qui ont travaillé au marégraphe. Je dis toujours, quand on fait un livre sur la Tour Eiffel, il y a le portrait de Gustave, mais il n'y a pas le portrait des milliers d'ouvriers qui ont mis les peintures ou qui ont mis les rivets sur les ferrailles, etc. Voilà. Là, je pense avoir retrouvé tout le monde, depuis les ingénieurs en chef jusqu'aux gardiens. Il y a eu 11 gardiens successifs au marégraphe, voire même des observateurs qui étaient un petit peu en dessous du gardien. Et ben, chacun a ses deux, trois pages de bouquin avec son histoire avant, pendant, après le marégraphe. Donc voilà, il s'adresse un peu à tout le monde. Il n'y a aucune formule mathématique. Je voulais qu'il soit accessible à tout un chacun.
Et est-ce que vous pensez donner une suite à ce livre?
Alors, une suite, oui et non. Dans le cadre de l'association, on publie déjà un petit fascicule, enfin on vend, l'association vend à 10 euros un petit fascicule qui fait 40 pages, qui est très illustré, et qui voilà, qui est un peu souvenir d'une visite ou souvenir d'un contact avec des amis du marégraphe, etc. On a un deuxième fascicule qui est en préparation, où il va y avoir un petit peu plus de texte, mais c'est pareil, ça sera quelque chose qui sera très accessible en termes de nombre de pages et de prix. Et puis on a aussi une bande dessinée qui est en préparation. J'ai reçu aujourd'hui les 12 premières pages. D'accord. Et donc ça, on devrait publier fin 2025, début 2026. Donc oui, c'est pas vraiment une suite du livre, mais c'est sur le même sujet, d'autres produits éditoriaux.
D'accord. C'est une autre façon de montrer le marégraphe.
Voilà, exactement comme on montre avec des visites virtuelles, comme on a l'intention de faire un film un jour, comme on a, etc., etc.
Alors, vous êtes ingénieur et bon, j'imagine que vous avez utilisé une méthode scientifique, en tous les cas une méthode particulièrement rigoureuse, pour organiser à la fois la collecte et le classement de tous les documents sur lesquels vous avez pu, pour lesquels vous avez pu avoir accès.
Alors oui, oui et non, c'est pas une base de données. J'avais pas les compétences pour faire une base de données et pas forcément la nécessité non plus. Par contre, le fait d'avoir en numérique, c'est saisi sous un traitement texte, hein, tout simplement. Bon, c'est quand même classé par chaque document avec un numéro de classement classé par.
J'imagine un résumé, un titre.
Voilà, c'est ça.
De manière classique.
Il y a aussi un tableau à côté qui me dit ce que je peux trouver dans chaque document, etc. Mais surtout, quand après je voulais parler d'une pièce du marégraphe, je sais pas, le flotteur par exemple. Eh ben, il n'y a qu'à chercher le mot flotteur et j'avais tous les documents qui me parlaient du flotteur et après, ben, j'écrivais mon chapitre sur mes deux ou trois pages sur le flotteur en fonction de tout ce que j'avais comme document. Voilà.
Et vous avez une facilité, semble-t-il, à écrire.
Oui, mes supérieurs hiérarchiques m'avaient toujours dit qu'effectivement, j'écrivais plutôt bien. Voilà.
Ouais, mais je peux le confirmer.
Et j'aime ça. C'est aussi une façon de transmettre, hein, l'écriture. Et ce qu'on fait en tant qu'association, c'est exactement ça. C'est essayer de transmettre de la connaissance, de l'information. Quand on essaye de sensibiliser sur les conséquences du changement climatique, voilà, si on veut expliquer aux gens qu'il faudrait que collectivement on change nos façons de vivre un peu, qu'on dégage moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut que les gens comprennent pourquoi il faudrait qu'ils changent. Autrement, on n'a aucune chance d'y arriver.
Voilà. Bien sûr. À quel endroit vous avez trouvé toute cette base iconographique et tous les documents d'archives que vous avez rassemblés dans ce livre ?
Alors, dans les archives, il y avait déjà pas mal de...
Et les archives municipales et départementales à Marseille, j'imagine ?
Oui, beaucoup, beaucoup les départementales. Hein. Le gros dossier marégraphe, la moitié de l'autre moitié qui était à l'IGN, là, était au départemental. Au municipal, il n'y avait pas grand-chose.
Je trouve que les archives départementales des Bouches-du-Rhône, dans les années 90, c'était 80 km de rayonnage.
Ouais, je ne suis jamais descendu dans les rayonnages, là, mais...
Ben c'est très... Oui, c'est... Enfin, on ne peut pas y descendre, mais il y a des registres qui indiquent tous les documents qui sont dans les archives. Ouais. Et moi, j'avais utilisé cette base de connaissances lorsque j'ai acheté ma maison. Et j'avais pu remonter jusqu'en 1600 et quelque chose. Donc, en partant du dernier acte de vente, on avait le précédent, le précédent, le précédent, le précédent. J'ai passé des dizaines d'heures à jouer les rats de bibliothèque. Et c'était passionnant. J'ai découvert l'histoire de tout le quartier où j'habite.
Alors, la recherche d'archives, c'est beaucoup de temps. Hein. Faut pas avoir peur d'entre guillemets, perdre du temps. Des fois, on trouve, des fois, on trouve pas. après, bon, voilà, je suis allé aux archives départementales à Lyon. J'ai fait pas mal de services d'archives. Et donc, aux archives départementales, dans les archives du marégraphe et à l'IGN, il y avait quand même à la fois pas mal de croquis que j'ai scannés, que j'ai pris en photo. Voilà.
Et donc, ça fait. Et vous en avez eu l'autorisation?
Oui, il suffit de demander de mettre un copyright, dire ça vient des archives départementales et puis voilà. Après, il y a beaucoup de photos. J'avais accès en tant qu'ingénieur IGN au marégraphe, donc je pouvais prendre toutes les photos que je voulais. Voilà, ça permet d'effectivement, le livre il fait 600 pages, mais il y a plus de 400 illustrations. Ouais.
Alors, moi je suis Marseillais, mais il y a plein d'auditeurs qui ne sont pas Marseillais et qui ont envie de savoir où se trouve le marégraphe de Marseille.
Alors, il est sur la Corniche à Marseille, c'est le 7e arrondissement de Marseille. C'est dans la partie. Plutôt les beaux quartiers de Marseille. Hein, donc, c'est le sud-est de Marseille en allant vers des endroits qui sont, euh, qui sont les Goudes, enfin la Pointe Rouge. Voilà. Pour les Marseillais, le Marégraphe, c'est après le pont de la Fausse-Monnaie, en face du parc Valmer. Voilà. C'est pas très loin à vol d'oiseau de Notre-Dame-de-la-Garde, qui est juste finalement juste au-dessus.
Ouais. C'est un peu pentu pour y aller, mais
c'est
oui,
un peu
c'est
pentu,
pas très...
oui.
À vol d'oiseau, c'est pas très loin.
Le chemin n'est pas très direct, mais à vol d'oiseau, c'est tout près.
Alors, quand et qui a fait construire le Marégraphe?
Alors, donc, le Marégraphe a été construit pour fixer le zéro des altitudes françaises continentales. Donc, quand je dis français, ça veut dire qu'à l'étranger, il y a d'autres marégraphes pour fixer l'altitude des autres pays. En Italie, c'est le marégraphe, il est à Gênes, par exemple. Et continental, ça veut dire que le zéro Corse, il a été fixé à Ajaccio, c'est pas celui de Marseille. Voilà.
D'accord.
Par contre, toutes les altitudes de France continentale sont fixées par rapport au marégraphe de Marseille. C'est-à-dire qu'une colline qui est à Brest, qui est à 300 mètres de l'océan, et ben, l'altitude de la colline, elle vient de Marseille et elle n'est pas relative au niveau de la mer qui est tout près.
Voilà. D'accord. Donc le niveau zéro de Marseille n'est pas le niveau zéro universel.
Non, c'est la France continentale. Et comme il y a des pays qui n'ont pas de littoraux, la Suisse, par exemple, n'a pas de mer. Eh bien, il faut bien se rattacher sur un nivellement voisin. Et donc, pour des raisons historiques, la Suisse est rattachée au nivellement français. Donc, toutes les altitudes suisses sont calées sur le zéro de Marseille.
Voilà.
Et avec la Suisse, le Liechtenstein, et avec la France, Andorre et Monaco.
Voilà. D'accord.
L'emprise du zéro de Marseille, c'est ça.
Vous avez commencé à répondre, et j'allais vous demander s'il existe d'autres marégraphes dans le monde, mais oui, il y en a plein. En fait, alors, il y a pratiquement un marégraphe dans chaque pays qui est entouré de...
C'est plus que ça. Il y a un marégraphe dans chaque pays pour fixer le zéro des altitudes, mais en France, il y a par exemple 50 marégraphes. Il y en a un à Brest, il y en a un à La Rochelle, il y en a un, etc., etc. Sur la Méditerranée, il y en a à Toulon, il y en a... Voilà. À Port-Vendres, à Nice, à Monaco. Voilà. Je dirais que le marégraphe de Marseille, c'est le plus terrestre de tous les marégraphes français, parce que justement, il a été créé pour le zéro des altitudes. Les autres, c'est pour des applications maritimes. En premier lieu, la sécurité de la navigation, les cartes marines, les annuaires de marée, les choses comme ça. Voilà.
D'accord.
Et puis, les tsunamis, tout un tas de choses. Mais le marégraphe de Marseille est particulier, notamment pour cette raison-là, le zéro des altitudes.
D'accord. Alors, vous évoquez l'art du nivellement. Vous voulez bien m'expliquer ce qu'est l'art du nivellement, s'il vous plaît?
Alors, c'est un peu... Le nivellement, c'est quelque chose qui a des aspects théoriques assez compliqués. Notamment parce que ça fait appel à des notions de pesanteur. La pesanteur là, qui nous tient les pieds au sol, l'attraction entre les masses qui fait qu'il y a la marée, l'attraction de la Lune qui tire la mer d'un côté ou de l'autre, fait que la verticale, elle n'est pas toujours orientée de la même façon. Voilà. Donc, la théorie du nivellement, c'est assez compliqué. Par contre, il y a des aspects très pratiques en nivellement qui sont de faire couler de l'eau. Hein, une pente de quelques millimètres entre un point A et un point B, si la pente va de A vers B, l'eau coule dans ce sens-là. Si c'est dans l'autre sens, et l'eau coule dans l'autre sens. Si pour que l'eau arrive au robinet, je ne sais pas, chez vous, au troisième étage, il faut savoir quelle force on va donner à la pompe. Enfin, voilà, tout un tas d'applications très pratiques. Faire couler de l'eau dans un canal, faire que la motrice du TGV elle peine pas trop dans les montées, faire que quand on met des pylônes avec des téléphériques l'hiver, ben, quand on installe les pylônes c'est bien, mais quand on met les fils, les cabines et les gens dans les cabines, le mieux c'est que les pylônes ne tombent pas. Donc tout ça on a besoin pour ça d'altitude et surtout de dénivelé, de différence d'altitude. Hein, peu importe où est la référence finalement, mais ce qu'il nous faut c'est de savoir si les points A, B, C ils sont plus ou moins hauts les uns par rapport aux autres et de quelle quantité. Voilà. Ouais, et avec des précisions, on a besoin de beaucoup de précisions. L'altitude des repères de nivellement, on va peut-être parler des repères après, elle est diffusée au millimètre près. Et des fois, des gens me disent « Mais à quoi ça sert le millimètre ?» Je leur dis « Vous avez une baignoire, un bac à douche chez vous, vous faites déborder votre baignoire ou votre bac à douche d'un petit millimètre pendant 2 jours, et puis vous revenez me voir et vous me direz si le millimètre, il fait pas de gros dégâts. Voilà. » Ouais. C'est vraiment le nivellement, c'est lié à tout ce qui est écoulement des fluides, l'eau en premier. Et pour ça, ben, dans certaines régions, quand on a une pente très forte, ben, on n'est pas à un millimètre près, mais dans les régions plates, eh ben, on a intérêt à avoir beaucoup de précision. Alors, on part du marégraphe, l'altitude zéro, et pour déterminer l'altitude, on utilise des mires de nivellement. Alors, quand je suis au marégraphe, je le fais avec des petits dessins, c'est quand même plus facile. Donc on utilise des mires de nivellement, c'est des règles graduées qui font 3 mètres de haut. Aujourd'hui c'est des codes-barres, mais ça fait exactement la même chose. Quelques dizaines de mètres plus loin, on a une deuxième mire de nivellement qu'on tient verticale avec la verticale locale. Hein. Et puis entre les deux, on met un appareil qui fait des mesures à l'horizontale. Donc on fait une lecture sur la première mire, la mire A, une lecture sur la mire B, on fait la simple soustraction et ça nous donne la dénivelée entre notre point A et notre point B. Et quand on a fini ça… Pardon ?
Oui, ce sont les outils qui sont utilisés par les géomètres.
Voilà, oui, enfin c'est parmi les outils qui sont utilisés par les géomètres. Voilà. Mais des outils relativement simples. On n'est pas très très loin des outils utilisés par les Romains quand ils faisaient des aqueducs.
Mmh. Ouais. Bon, mais il y en a un tout près de chez moi.
Encore une fois, je vous parlais de code-barre. Les Romains, ils n'avaient pas de code-barre, mais sur le fond, on n'est pas très loin de ce qui se faisait à l'époque.
Ouais. Mmh. Bah, tout comme à l'époque où ont été construites les fontaines du parc de Versailles,
oui.
ou lorsque Paul Riquet, alors je ne sais pas quand est mort Paul Riquet, mais lorsqu'il a construit le canal du Midi, par exemple.
Le canal du Midi, oui, tout ça c'est typiquement des applications de nivellement de précision.
Mais au moment de la construction des fontaines du parc de Versailles, les ingénieurs ne disposaient pas de ces outils.
Il y avait des outils. Hein, les Romains utilisaient un niveau qui s'appelait le chrorobat. C'était un tube rempli d'eau et avec deux petites fioles de chaque côté du tube. Donc c'était un tube de 2 mètres de long. Hein, deux petites fioles. Donc l'eau était dans les fioles aussi. Et ils alignaient les deux niveaux d'eau pour avoir l'horizontale. Aujourd'hui, on le fait avec des instruments avec un pendule à l'intérieur. Mmh. C'est de la mécanique, mais le principe est le même. On cherche à faire horizontal, vertical.
D'accord, mais ce sont les niveaux des maçons, en fait.
C'est ça, c'est des niveaux de maçons un peu perfectionnés.
C'est ça. Bon, je vois un peu plus clair. Et à quel moment est apparu le besoin de ces outils et de ces chiffres de nivellement?
Alors,
qui en avait besoin, en fait?
Le nivellement, c'est très très vieux, puisqu'on a parlé des Romains, etc. Par contre, ce qui est apparu à un moment donné, c'est un besoin d'une référence unique. Vous parliez du château de Versailles. Quand le géomètre, il s'appelait Picard, quand il a voulu amener l'eau de la Loire aux fontaines du château de Versailles, il avait pris comme référence le rez-de-chaussée du château. C'était ce qui se faisait à l'époque, les géomètres terriens avaient la le même réflexe que les marins. Les marins, ils ont une référence en haut et ils calculent les profondeurs. Et bien sur Terre, à l'époque, on faisait la même chose. On prenait la référence en haut et on calculait tout le chantier avec une référence haute. Quand on a commencé à raccorder 18e, 19e, des réseaux de canaux et 19e des voies ferrées, les ingénieurs ont commencé à se gratter la tête en se disant, oh là, ça commence à être compliqué, on a des références partout, ça serait quand même bien qu'on ait une référence unique. Et donc, dès le 18e, le niveau de la mer, conçu à l'époque comme ne bougeant pas, le niveau moyen ne bougeant pas, on ne parlait pas de changement climatique à l'époque, a été assez rapidement la référence choisie. Et donc, le premier nivellement général de la France s'est fait dans les années 1860. Il a été fait par un nommé Paul-Adrien Bourdaloue, et Bourdaloue, il avait relié les niveaux de la mer dans les différents ports français, et localement, il y avait un niveau qui était considéré par les ingénieurs du port comme le niveau moyen local. Donc il avait relié tous ces points-là, et le résultat de ces mesures, en 1860, disait que le plus bas des ports français, c'était Marseille. Et donc mettre un zéro à Marseille, ça voulait dire avoir des altitudes toutes positives sur l'ensemble du territoire. Et c'est la raison principale pour laquelle Marseille a été choisie comme référence nationale. Alors c'était pas tout à fait vrai, parce qu'à l'époque, les mesures de Bourdaloue disaient que Port-de-Bouc était 3 cm en dessous de Marseille. Mais Port-de-Bouc en 1860, voilà, à part des moustiques et du palu, il y avait pas grand-chose.
Quelques pêcheurs, c'est tout.
Ouais, et encore, je crois qu'il y avait vraiment pas grand-chose à l'époque. Donc à Marseille, il y avait quand même les ponts et chaussées, il y avait voilà un port avec des fonctionnaires sur place et des moyens de faire des mesures beaucoup plus facilement, régulièrement qu'à Port-de-Bouc.
D'un point de vue technique, comment fonctionnent les marégraphes, mais plus particulièrement le marégraphe de Marseille?
Alors, un marégraphe, c'est d'abord quelque chose qui mesure le niveau de la mer. Hein, ça ne mesure pas la marée. L'étymologie, c'est le marais latin, c'est la mer.
D'accord.
Le niveau de la mer, il évolue, enfin, le niveau moyen de la mer, il change pour tout un tas de raisons. Donc, il y a la marée, l'attirance de la Lune, essentiellement. Donc ça, c'est toutes les 6 heures, marée haute, marée basse, enfin 6 heures, 6h30. Et puis d'un jour à l'autre, ou à l'intérieur d'une même journée, le niveau de la mer, il change à cause de la météo et essentiellement la pression atmosphérique. Quand on est en condition anticyclonique, l'air pèse, la pression de l'air est plus forte sur le niveau de la mer. Et donc la marée va avoir du mal à monter et elle va descendre très bas. Et en condition dépressionnaire, eh bien c'est l'inverse. Voilà. Donc quand on a une forte marée au Mont-Saint-Michel, eh bien finalement la météo par rapport à la marée astronomique qui est très grande, elle est relativement négligeable. En Méditerranée, avec de plus petites marées, on a souvent un effet météorologique qui est plus important que l'effet astronomique. Donc déjà le marégraphe, voilà, l'étymologie, c'est mesurer le niveau de la mer, et le niveau de la mer, il évolue sur des temps assez courts, à l'intérieur d'une même journée ou d'un jour à l'autre. Ensuite, comment les premiers marégraphes ont été construits? C'est un flotteur. Un flotteur, c'est une grosse marmite hein, fermée qu'on pose sur le niveau de l'eau. Et après, on se débrouille pour. Donc, ce flotteur, ben, il monte et descend avec la mer. Et on transmet les mouvements de ce flotteur à un appareil qui, donc après, il y a des poulies, il y a des engrenages, il y a des réductions, voilà, il y a des petites choses sympathiques. Et l'idée, c'est de tracer les mouvements de la mer en fonction du temps sur un rouleau d'enregistrement, sur du papier. C'est marégraphe, c'est je dessine les mouvements de la mer.
D'accord. Okay.
Donc ça, c'est les marégraphes mécaniques. Et puis aujourd'hui, on a des instruments numériques. Donc, par exemple, au marégraphe de Marseille, dans le même endroit, on appelle ça le puits de tranquillisation, à l'endroit où il y a le flotteur du marégraphe mécanique, bien, à côté, il y a un marégraphe qui fonctionne avec des ondes radar. Donc le train d'onde et le marégraphe, l'émetteur-récepteur est au-dessus du puits. Le train d'onde est émis en direction de l'eau, réfléchi par la surface de l'eau, et on mesure le temps d'aller-retour qui est transformé en hauteur. Voilà. Donc on a deux instruments aujourd'hui à Marseille qui fonctionnent en parallèle et on contrôle qui donne les mêmes résultats.
Ça allait être ma question. Est-ce que les deux systèmes de mesure donnent des résultats concordants? Alors j'imagine qu'il doit y avoir quelques différences, au moins, enfin, peut-être infinitésimales, parce que l'un doit être davantage précis, je pense aux outils numériques, davantage précis que
Non,
le.
on ne peut pas l'exprimer comme ça. La précision, elle est la même. Et elle est la même aussi que le nivellement. Pour toutes ces choses-là, on cherche le millimètre et on obtient le millimètre sur le long terme.
D'accord.
Le zéro des altitudes, il a été fixé en mesurant pendant 12 ans. Hein, donc c'est finalement la mesure instantanée a assez peu d'importance. Ce qui nous
D'accord.
intéresse, c'est le long terme. Hein.
C'est sur le lion.
Et les deux instruments ont la même précision, on va dire. Par contre, c'est deux technologies différentes, donc ils peuvent avoir ben voilà, des dérives ou des imprécisions. Voilà. Donc on les compare l'un par rapport à l'autre, on les compare avec d'autres instruments. Alors on fait ça, je dis toujours on, l'IGN fait ça maintenant, sur un cycle complet de marée pendant 12h30. On fait des mesures toutes les 10 minutes. Et puis, ben justement, on tire un. Alors, c'est un ingénieur géographe de l'IGN qui a inventé ce test. Il s'appelait Charles Van Castel. Donc, c'est le test de Van Castel qui est reconnu par l'Organisation océanographique internationale et donc appliqué dans tout le monde aujourd'hui. Le résultat des mesures. Et traduit de façon graphique et suivant la forme du graphique, on a les défauts des instruments. Si c'est une résistance, si c'est autre chose, si c'est à marée montante, si c'est à marée descendante, etc. Voilà. Donc on fait ces tests régulièrement et après, ben, s'il y a un problème, eh ben, on essaye de corriger le problème.
Vous parliez
L'appareil.
de puits de tranquillisation.
Oui, alors l'eau rentre dans le bâtiment du marégraphe par au marégraphe de Marseille, c'est fait comme ça, mais dans tous les marégraphes, c'est à peu près fait de la même façon. Au marégraphe de Marseille, il y a donc une galerie qui est en partie souterraine. Donc, la galerie souterraine fait 8 mètres de long. Elle est fermée par deux portes intérieures et extérieures. Et à la base des portes, il y a des petits trous qui laissent passer l'eau.
D'accord.
Et après la porte intérieure, il y a un puits sur la surface liquide, est posé le flotteur. Donc on a le même niveau moyen de la mer dans le puits qu'à l'extérieur, mais dégagé de tous les mouvements brusques, les vagues, la houle, Et donc, on peut faire des mesures beaucoup plus facilement à l'intérieur qu'en les forêts à l'extérieur.
D'accord. Bon.
Et donc, le puits s'appelle un puits de tranquillisation. Ça explique bien sa fonction.
Oui, mais enfin, bien même. À Marseille, il y a des vagues tout le temps. Quoi. Ce qu'on appelle mer d'huile, c'est quand même exceptionnel. Et même lorsqu'il y a mer d'huile, il y a quand même des vaguelettes. Donc, pour faire des mesures sur un liquide qui est en perpétuel mouvement, ça me paraissait compliqué.
Et ben voilà, le puits permet d'avoir quasiment une mer d'huile à l'intérieur du bâtiment.
Voilà. Bon. Alors. Quel a été le premier réseau de nivellement? Parce que j'imagine que lorsque le marégraphe de Marseille a été installé, validé, ben, il y a eu plein de gens qui ont dû avoir envie de points de nivellement ou en tous les cas d'informations.
Alors, on a expliqué comment on faisait du nivellement avec des mires, avec un niveau, etc. Avant le 19e siècle, les traces de ces opérations, c'était juste des croix tracées sur, je sais pas quoi, une racine d'arbre ou une trace gravée sur le bord d'un pont, sur un seuil de porte ou des choses comme ça. Ce qu'on appelait des repères soi-disant naturels.
C'était
pas très naturel, mais voilà. Et au 19e siècle, début 19e, on a commencé à laisser des traces sous forme de repères de nivellement métallique. Mais on n'était pas encore au nivellement national, au nivellement général de la France. Donc, à Marseille, par exemple, il y a de ces repères locaux. Il y a des plaques qui font, je sais pas, 20 cm sur 20 peut-être. Avec les armoiries de la ville, des choses comme ça. Il y en a un qui est, par exemple, sur la façade latérale de l'hôtel de ville, côté Bargemont. Ouais. Et il y en a quelques dizaines encore dans Marseille. Voilà. Ils ont tendance à disparaître à cause des...
L'occasion de ravalement de façade.
Et voilà, des ravalements de façade et quelques vols, quelques... Voilà, des gens qui s'intéressent à l'histoire pour des raisons plus ou moins financières. Voilà.
Oui, parce que ces plaques sont trop petites pour servir de plaque de cheminée.
Oui, non, ça risque pas. Donc, c'était les premiers repères de nivellement. Après, il y a eu donc Bourdaloue dans les années 1860. Donc là, il y a eu 15 000 repères de la même facture scellés sur l'ensemble du territoire. Trente ans après, on va dire, il y a eu un nouveau nivellement général de la France avec son origine. Donc l'origine du réseau Bourdaloue, c'était une échelle de marée, une échelle graduée qui était scellée dans un quai. Ce quai, il était à la sortie du canal Saint-Jean qui existait alors... autrefois entre le fort Saint-Jean et le panier. Aujourd'hui, c'est une route.
Ouais.
Donc là, il y avait l'ancienne consigne sanitaire et l'échelle de marée était pas très loin des bâtiments de la consigne sanitaire à la sortie du canal.
Voilà. La consigne sanitaire existe encore. C'est devenu maintenant le musée de Provence.
C'est pas la consigne du musée. Non, non. C'était plus vieux que ça. Dans le vieux port.
D'accord.
Okay. La consigne sanitaire, c'était tout près du Fort Saint-Jean.
D'accord.
Beaucoup plus près que l'autre qui a été construit plus tard.
Oui, qui est près de la vieille chérie.
Qui est aujourd'hui un musée. Voilà.
Oui, c'est ça. Okay.
Donc le 0,40 de cette échelle était considéré comme le niveau moyen de la mer par les ingénieurs du port. Et donc, il est devenu le premier zéro du nivellement général de la France. Le 13,40 m, c'était l'altitude zéro. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'était 1860. À l'époque, la France était le seul pays à posséder au monde, hein, à posséder un nivellement général de son territoire. Pour autant, à partir de 1864, il y a eu des réunions de géodésiens du monde entier, mais c'était surtout l'Europe. Et ces réunions, elles se faisaient avec une forte présence et prédominance de l'Allemagne. C'était Bismarck à l'époque. Et donc le nivellement français a été très critiqué, notamment par les Suisses. Et donc pour avoir des choses plus précises et aussi pour garder le premier rôle en termes de nivellement, eh bien la France a voulu refaire un autre réseau de nivellement et appuyer la référence sur des mesures plus scientifiques et donc construire le marégraphe de Marseille.
D'accord.
Donc ça s'est fait dans le cadre du plan de grands travaux de Charles de Freycinet, 1879. Donc, le marégraphe, les bâtiments ont été construits en 1883. Ouais.
D'accord. Donc, ces plaques de repère qui existent encore sur les murs n'ont plus aucune utilité, sinon historique.
Si, si, c'est toujours. Donc, à partir de. Donc, il y a eu les 15 000 repères Bourdaloue, et à partir de 80, on va dire, il y a eu d'autres repères scellés. C'est aujourd'hui ceux qui sont les plus nombreux sur le territoire français. Aujourd'hui, il y a 450 000 repères de nivellement en France. Ils sont tous décrits par une petite fiche cinétique accessible sur Internet. Il y a même une application qui s'appelle Géodésie de poche et qu'on charge sur son téléphone et après on part à la chasse au trésor, on va chercher les repères de nivellement et on peut mettre à jour aider l'IGN à mettre à jour les fiches descriptives, et ces repères sont toujours utilisés par les géomètres locaux quand ils veulent quelque chose de très précis. On fait une adduction d'eau, on fait un nouveau lotissement, on fait un chantier local, on ne repart pas évidemment chaque fois de Marseille, et on part des repères de nivellement qui sont sur place. Voilà.
Et l'hygiène continue. Ont été établis à partir du point zéro de Marseille.
Voilà, l'altitude est établie à partir de Marseille, mais il y a des traces un peu partout sur le territoire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. L'IGN continue à sceller des repères de nivellement. C'est pas des traces du passé. Voilà.
D'accord.
Il y a des applications qui peuvent se contenter de mesures satellitaires, mais pas toutes. Et donc, il y a, je sais pas, par exemple, on est en train d'envisager un accélérateur de particules au CERN dans la région de Genève. Là, il faut de la précision extrême. Et donc, ça s'appuie en particulier sur des repères de nivellement.
D'accord. Alors, je vous disais avant cette émission qu'il existait à Marseille une entreprise qui éditait l'almanach des marées. Et cet almanach était acheté par tous les marins pour connaître les marées de tous les ports de France. Et je suis content que ce soit une entreprise marseillaise qui, depuis, a été rachetée et malheureusement a disparu.
L'une des raisons, enfin, la raison principale, c'était celle que je vous ai dit, les altitudes toutes positives.
Ouais.
Après Marseille, il y avait effectivement plein d'autres atouts et c'était d'abord le premier port de commerce de France, quoi. Et le fait que le nivellement a toujours été civil, on a dit au début, là, c'était l'IGN, ce qui était civil, alors que le CHUM était militaire à l'époque. On a mis le marégraphe à Marseille et pas à Toulon, par exemple, où la marine tirait toutes les ficelles. Voilà. Il y a plein d'autres raisons qui sont justement écrites dans un très bon livre qui fait 638 pages. Mais la raison essentielle, c'est le côté altitude toute positive.
Voilà. Le marégraphe a été récemment restauré. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez intitulé un paragraphe le marégraphe moderne?
Oui, alors il a été restauré dans les dernières décennies, il a été restauré deux fois. En 2006-2007, où il y a eu, je ne sais plus, je crois que c'était 500 000 euros de travaux. Donc là effectivement, on était parti d'assez loin, parce que moi, j'ai connu le marégraphe avec des fenêtres murées, avec des fils partout. Voilà. Donc là, il y avait eu pendant des décennies un défaut d'entretien des bâtiments. Donc ça s'est fait une première fois. Et il a été de nouveau restauré en 2022-2023. Alors il y avait d'abord eu l'appareil qui a été restauré parce que voilà, des pièces en laiton en milieu marin, et ben à un moment donné ça s'encrasse, hein, voilà, il faut faire intervenir c'est un horloger, donc c'est Thierry Gibernon, le premier ouvrier de France, meilleur ouvrier de France qui est à Gardanne, son atelier s'appelle Le Garde-Temps. Il est membre de l'association Les Amis du Marégraphe de Marseille. Voilà. Donc c'est lui qui l'entretient actuellement. Et puis les bâtiments ont été restaurés. Et ce qui s'est fait essentiellement en 2022-2023, c'est tout ce qui était ferronnerie, qui était très attaqué par le sel. Donc voilà, il y a eu une restauration assez récente. Non, si j'ai parlé du marégraphe moderne, c'est que ben, on a parlé beaucoup du marégraphe mécanique historique, mais donc il y a aujourd'hui des instruments plus modernes au marégraphe. On a parlé déjà du radar. Il y a une deuxième installation qui consiste à s'assurer que notre observatoire ne bouge pas. Aujourd'hui, on mesure une élévation du niveau de la mer qui est due au changement climatique. Il ne faudrait pas que ce qu'on considère, à très juste titre, comme dû au changement climatique, soit en partie faussé par un mouvement des instruments de mesure eux-mêmes. Hein ? Donc ça, c'est les satellites qui nous permettent de contrôler ça. Donc le radar mesure le niveau de la mer, les satellites, il y a des satellites océanographiques qui mesurent aussi le niveau de la mer sur l'ensemble des océans, ça c'est une chose. Et puis au marégraphe, il y a des satellites, alors on va dire GPS, on ne devrait pas dire GPS puisque GPS c'est le système américain, il y a Galileo européen. Il y a encore 2-3 ans, on utilisait GLONASS russe, par exemple. Bon, aujourd'hui, c'est plus possible, ça donne à peu près n'importe quoi. Mais voilà, on devrait dire GNSS, Global Navigation Satellite System, pour dire qu'on utilise tout ce qui est exploitable en termes de système satellitaire. Par abus de langage, on dit souvent GPS parce que tout le monde sait ce que c'est. Voilà. Donc il y a une antenne qui est sur le toit du bâtiment du marégraphe, il y a des appareils qui sont à l'intérieur du bâtiment. Tout ça produit en permanence des coordonnées de l'observatoire, des coordonnées planimétriques, latitude, longitude, et puis une hauteur au-dessus d'une certaine surface de référence. Et donc si on trace justement l'élévation de notre marégraphe depuis l'existence de cette station, depuis 1998, eh bien, on a une courbe qui est un petit peu bruitée, parce que chaque fois qu'on fait de la mesure, voilà, d'un instant T à l'instant T plus 1, eh bien, on n'a pas tout à fait la même mesure. Mais on a une tendance qui est relativement stable. Et donc, aujourd'hui, aux incertitudes de mesure près et à des tout petits mouvements de l'observatoire près, on peut dire que l'observatoire ne bouge pas et que ce qu'on mesure, c'est bien l'élévation du niveau de la mer. Ça peut être différent pour tout un tas de raisons à d'autres endroits du globe. Si on n'en prend qu'un exemple, le marégraphe de Dieppe est dans une zone alluvionnaire à la sortie d'un petit fleuve côtier. Donc si on prend les mesures brutalement du marégraphe de Dieppe, on a l'impression que la mer monte beaucoup plus à Dieppe qu'à Boulogne ou au Havre. Non, c'est pas ça. C'est qu'en même temps que la mer monte, le marégraphe de Dieppe descend. Donc, évidemment, la différence est plus grande qu'ailleurs. Voilà. Donc cette différence-là, ce mouvement-là, on l'a très très peu à Marseille.
Alors, vous avez consacré un paragraphe à, je cite, « une histoire d'hommes ». Qui sont-ils et quelles relations avez-vous eues avec tous ces hommes qui ont eu une partie de leur histoire au Marigraphe ?
Alors moi, j'ai d'abord beaucoup aimé rédiger cette partie-là. Le Marigraphe de Marseille, c'est oui une histoire architecturale, une histoire technique, une histoire géodésique, nivellement, mais c'est aussi plein de gens qui ont travaillé. Il y a une histoire humaine, et donc je pense avoir retrouvé il y a à peu près 80 personnes qui ont travaillé au Marigraphe sur des durées un peu longues. Celui qui est venu une fois un jour, j'ai pas forcément son nom, mais ceux qui sont restés quelque temps, je les connais tous. Et donc dans le livre, j'ai donné 2-3 pages à chacun d'entre eux. Depuis les ingénieurs directeurs du port à Marseille, et puis les directeurs du Nivellement Général de la France à Paris, jusqu'aux gens qui étaient ce qu'on appelle souvent le bas de l'échelle, les gardiens, voire même les gens qui venaient faire quelques mesures de temps en temps dans les périodes où les gardiens pouvaient être malades ou voilà. Et donc chacun a ses 2-3 pages de livre avant, après sa carrière. En général, les gardiens venaient à la retraite au Marigraphe. Donc j'ai rencontré des familles de gardiens qui m'ont expliqué tout ça, qui sont venus au Marigraphe en pleurant de retrouver les lieux dans lesquels ils avaient vécu des dizaines d'années avant. Voilà. Aujourd'hui, dans notre association, on a 2 filles de gardiens, une petite fille, une arrière-petite fille aussi, je crois. Enfin voilà, on a des liens avec les familles. Cette histoire-là me plaît beaucoup. Voilà. Sur le côté essayer de retrouver tout le monde, c'était quelque chose, j'y tenais vraiment à cœur. Je dis toujours, quand on fait un livre sur la Tour Eiffel, il y a toujours le portrait de Gustave Eiffel. Il n'y a jamais le portrait des milliers d'ouvriers qui ont mis la peinture ou qui ont posé les rivets, etc. Au Marigraphe, je pense avoir retrouvé quasiment tout le monde. Voilà.
Bravo, merci pour eux. Quand même, on va passer aux choses désagréables. Satellites et intelligence artificielle, vont-ils sonner l'arrêt du Marigraphe ?
Vous m'avez dit satellite ?
Satellite et intelligence artificielle. Ouais. Ces deux outils vont-ils sonner l'arrêt de l'utilité du Marigraphe de Marseille, qui restera bien évidemment un souvenir historique, mais comme symbole et comme outil, mais j'allais dire presque de la préhistoire dans quelques années.
Alors, d'abord, on va parler de l'époque actuelle, et puis on envisagera ce qu'on peut voir sur l'avenir. Le Marigraphe, aujourd'hui, c'est un observatoire. D'accord, il a un intérêt patrimonial. Il est classé monument historique depuis 2002. Mais aujourd'hui, c'est un observatoire du niveau de la mer, tout ce qu'il y a de plus actuel. Il est intégré dans des réseaux d'observation du niveau de la mer depuis 1985, un réseau initié par l'UNESCO, qui s'appelle GLOSS. Et les deux marégraphes qui ont été intégrés dans GLOSS, c'est Marseille et Brest. Pour la même raison, c'est eux qui ont produit les deux séries françaises les plus longues d'observation du niveau de la mer. Et si on s'intéresse au niveau de la mer aujourd'hui, c'est pour mesurer l'un des très très nombreux effets des changements climatiques, qui est l'élévation du niveau de la mer. Donc les moyens modernes, ils existent, mais ils ne nous permettent pas de remonter dans le passé. Donc le marégraphe, il a cette fonction-là. Il mesure une quantité qui est le niveau de la mer dans les mêmes conditions aujourd'hui et en 1885. Et donc, on peut comparer avec le marégraphe un niveau de la mer de 1885 et de 2024. Voilà. Donc ça, c'est son rôle actuel. Il a été réaffirmé l'année dernière. Le marégraphe a été labellisé à la demande de notre association et par l'intermédiaire d'un dossier déposé par l'IGN, par l'Organisation météorologique mondiale. Donc, comme son nom l'indique, elle s'occupe de météo, mais la météo, ça a quand même de plus en plus de liens avec le climat. Et donc, l'Organisation météorologique mondiale s'intéresse à tout ce qui est changement climatique. Et il faut voir la labellisation de cette façon-là, c'est qu'aujourd'hui, du fait de la longueur et de la qualité de la série de hauteur d'eau produite à Marseille, le marégraphe de Marseille, il fait bien évidemment la fierté des Marseillais, mais il a un rôle sociétal et planétaire actuel. Voilà.
Après, on peut dire que le marégraphe a encore de beaux jours devant lui.
Alors ça oui, j'ai écrit ça déjà quelques fois, oui. Après, comment ça va évoluer dans les décennies à venir, difficile à dire. Ça dépend beaucoup de nous, hein, des quantités de gaz à effet de serre qu'on va continuer à dégager ou pas dans l'atmosphère dans les décennies à venir. L'intelligence artificielle, je ne sais pas très bien ce que ça pourrait amener il y a déjà des centaines et des centaines de scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait amener quelque chose de supplémentaire? Je ne suis pas sûr. Et après, vous m'aviez parlé des satellites, enfin, c'est ça?
Satellites, oui.
Aujourd'hui, sans parler de l'avenir, hein, dès aujourd'hui et depuis les années 90, le niveau de la mer il est mesuré de deux façons différentes. Sur l'ensemble de la surface des océans par des satellites océanographiques, c'est pas les mêmes satellites que ceux qu'on évoquait tout à l'heure de positionnement, les satellites GPS. Donc là, on a énormément de données sur l'ensemble des océans. Le problème de ces données, c'est qu'elles datent que des années 90. Et donc, on a dit que l'intérêt, c'était d'avoir des très longues séries. Donc, on va dire que les satellites, ils sont presque encore un peu jeunes pour travailler tout seuls. Voilà. Pour autant, c'est quand même cette mesure-là qui est prédominante aujourd'hui. Hein. Et qui continuera à l'être, en sachant que plus on va vers l'avenir, et bien plus la série de données satellitaires sera longue. Voilà.
Merci Alain Coulon d'avoir réalisé et produit ce livre, dont je rappelle le titre « Le marégraphe de Marseille, de la détermination de l'origine des altitudes au suivi des changements climatiques, 130 ans d'observation du théâtre de la mer », qui a été édité par les Presses des Ponts. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à vous.
Lors de votre prochain passage à Marseille.
Merci, au revoir.
Au revoir.